Crémant, 17 mars 83, Père Philippe.
Après avoir donc essayé d'étudier, d'analyser l'amour d'amitié, après avoir essayé de montrer comment tous les grands moments de notre action volontaire et morale se retrouve dans l'amour d'amitié comme à son maximum. Et la dernière fois, nous avions discuté à propos de l'imperium, vous vous souvenez. Et je vous avais dit d'y réfléchir et de continuer d'y réfléchir. Et je vous dis la même chose, continuer d'y réfléchir pour essayer de comprendre comment l'imperium se trouve de deux manières très différentes, un petit peu comme le point de vue du conseil, dans le point de vue de l'amour d'amitié et dans l'activité du commandement. C'est intéressant parce que ça fait comprendre, si vous voulez, ce lien entre l'éthique personnelle et l'éthique politique ou l'éthique familiale. Puisqu'au fond, dès qu'il y a un commandement, nous ne sommes plus dans l'éthique personnelle. On est en face d'une autre éthique. Et c'est intéressant de voir que c'est autour de l'imperium que, de fait, nous pouvons saisir comment, d'une certaine manière, l'éthique familiale, l'éthique du commandement, montre quelque chose de plus manifeste par rapport au commandement lui-même, acte d'intelligence, et que d'autre part, toujours, le point de vue de l'éthique personnelle a, dans l'amour d'amitié, quelque chose d'unique. On voit bien que l'éthique n'est parfaitement éthique que dans l'éthique personnelle. L'intention, le choix, alors, l'imperium, vous voyez bien, qu'il y a dans l'imperium quelque chose de moral, et en même temps, il y a quelque chose qui est d'un autre ordre. Le passage de l'union affective à l'union affective. Dans l'imperium du commandement, c'est l'efficacité, l'imperium. Fais ceci, on est dans l'ordre du facere. Donc l'imperium va chevaucher, vous voyez, du côté de l'éthique, et il s'introduit dans l'efficience, dans le facere, ce qui est très curieux. Parce que le facere lui-même, en lui-même, au point de vue purement artistique, n'a pas d'imperium. Dans l'activité artistique, il n'y a pas d'imperium. L'artiste est commandé par sa propre idée. Il n'a pas besoin de recevoir des commandements. Et quand vous donnez un commandement à un artiste, il vous renvoie promener d'une manière remarquable. N'est-ce pas ? Parce qu'un artiste, comme artiste, ne reçoit pas d'imperium. C'est très curieux, ça. Et cependant, l'imperium qui naît du côté moral va avoir un débordement du côté du facere, pour celui à qui on commande de réaliser quelque chose. C'est au niveau communautaire. Parce que dans l'aspect communautaire, l'agir et le facere sont intimement liés. Et c'est par l'imperium que nous le voyons. On voit là le dosage de l'agir, donc de l'intention, de l'union affective et de l'union effective qui se fait à partir de l'imperium. Donc, c'est la plaque tournante de l'imperium entre l'éthique personnelle et l'éthique communautaire. C'est la plaque tournante. C'est normal, puisque l'imperium, quand il est parfait, relève de la prudence, ce que nous verrons. Et nous reverrons le même problème quand nous retrouvons la prudence. Et peut-être qu'à ce moment-là, les choses s'éclaireront davantage. Ce qui est donc sûr, et je crois que nous pouvons donner ça comme conclusion, Si vous n'êtes pas d'accord, vous me le direz. C'est toujours intéressant. Il vaut mieux le dire, hein, que de le réserver sur soi. Alors ça fait quelque chose après de mauvais. Là, il vaut mieux le dire tout de suite. Pas maintenant, mais écrivez-le sur un papier. Ceci nous fait comprendre comment le point de vue de l'activité de l'amour d'amitié représente donc bien à la fois le fondement et ce qu'il y a d'ultime dans l'éthique personnelle. Le fondement à cause de l'amour, pas d'éthique sans amour, et l'aspect ultime, c'est que dans l'amour d'amitié, tout prend une note de son maximum. C'est là où tout va le plus loin. Et donc, on peut dire que l'amour d'amitié à la fois fonde et donne la note ultime. Ce qui est très important pour la philosophie éthique. En étudiant vraiment l'amour d'amitié, j'étudie la philosophie morale. C'est intéressant, du reste, de voir ça. Et alors, c'est encore par rapport à l'amour d'amitié, maintenant nous pouvons le dire, que nous allons voir la nécessité des vertus. Vous voyez, c'est intéressant de poser la nécessité des vertus pour qu'on puisse aimer vraiment le prochain, pour qu'on puisse aimer vraiment l'ami. Alors à ce moment-là, il y a un moteur extrêmement fort pour qu'on puisse lutter. Parce que quand on dit « tu dois faire ça, tu dois être humble hein, », on a envie de dire hein, « tu dois obéir ». Qu'est-ce que ça veut dire, hein, les vertus hein. On a trop dans sa tête des spectacles de gens vertueux qui ne sont pas précisément aimables. Alors à ce moment-là, on va promener, n'est-ce pas ? Tandis que si vous voyez que la vertu est faite pour permettre l'éclosion d'une véritable amitié, et que sans les vertus, l'amitié ne peut pas durer. L'amour d'amitié ne peut durer que grâce aux vertus. Ça, ce serait une très belle chose à montrer. Vous voyez, très belle page d'éthique. L'amour d'amitié ne peut durer, ne peut grandir, ne peut s'approfondir que s'il y a des vertus. S'il n'y a pas de vertus, l'amour d'amitié ne pourra pas s'approfondir parce que l'amour d'amitié demande de durer. Une hirondelle ne fait pas le printemps. Un acte d'amour ne fait pas l'amour d'amitié. On le sait très bien. Il faut du temps. Et les anciens disaient qu'il fallait prendre pas mal de sel ensemble, c'est-à-dire déjeuner, n'est-ce pas, pour que de fait l'amour d'amitié puisse se réaliser. Et c'est vrai, il faut une vie commune. Il faut une certaine vie commune. C'est une certaine vie commune. La vie commune des philosophes est assez particulière. Parce que vite, ils en ont par-dessus la tête et disent « va-t'en te promener, je veux la solitude ». Très bien. Alors l'autre a compris. La solitude, c'est la vie normale du philosophe. Mais comme le philosophe n'est pas uniquement philosophe, il doit être un homme, il a besoin de la vie commune. Vous voyez, ce qu'on dirait pour le point de vue de la vie religieuse. C'est qu'on est philosophe, mais on est religieux. Et alors, dans la vie religieuse, il y a les deux. Et ça, les deux se complètent, ça ne s'oppose pas. Les deux se complètent. Parce qu'il y a le développement de l'affectivité qui est nécessaire comme milieu pour le développement de l'intellectuel. C'est pour ça que le meilleur développement de la vie philosophique, si elle n'existait pas, on devrait l'inventer. C'est une communauté religieuse. Transformer le département philosophique de la Sorbonne en vie religieuse. Et alors, ça ferait tout de suite une qualité merveilleuse de l'enseignement philosophique. Si l'enseignement philosophique est si bas, il faut le dire, en dessous du niveau de la mer, souvent, on est bas, eh bien, c'est parce que, de fait, il n'y a pas assez de communauté humaine, il n'y a pas assez de chaleur. Quand vous êtes uniquement seul, ben, un iceberg, c'est pas philosophique. Non. Vous retomberez dans la logique. Et ce sera le danger. La métaphysique, hein, qui est une fleur difficile à cultiver, avis à ceux qui aiment les fleurs. Hein. La métaphysique est une fleur difficile à cultiver, une orchidée extraordinaire, de l'intelligence, c'est merveilleux, ça. Demande un certain milieu. Les fleurs ont besoin d'un milieu. Les violettes, ça pousse partout, parce que c'est les violettes. Mais d'autres fleurs, il faut un milieu. Il faut un certain milieu pour que ça pousse. Eh bien, la métaphysique, c'est comme ça. Il faut un certain milieu pour que ça pousse. S'il n'y a pas un certain milieu, ça ne poussera pas. Peut-être qu'il y aura une lumière extraordinaire d'une intuition de l'être d'un jour, mais le lendemain de l'intuition de l'être, elle ne donnera rien du tout. Alors, il faut un certain milieu. Et la vie commune bien comprise, et la vie commune religieuse bien comprise, intelligemment comprise. Parce qu'il peut y avoir de grosses vies communes qui alourdissent. Alors c'est le concours des gros camions sur la route du lundi. Alors c'est effrayant, c'est effrayant. Ça c'est la vie commune, les gros camions qui veulent se dépasser, vous savez, et qui n'arrivent pas. Alors ils restent longtemps parallèles hein, en se regardant. Alors si vous êtes le troisième, et comme on est toujours trois dans la vie commune, vous avez deux gros camions devant vous, et qui vous bougent tout, et qui vous donnent une vitesse que vous êtes obligé d'aller. Alors ça c'est la lourde vie commune, hein, les gros camions devant vous, qui n'avancent pas. Alors qu'on voudrait avancer un peu plus vite, quoi. Tu sais, alors, c'est vrai que la vie commune, pas suffisamment intelligente, alourdit. Et une vie commune suffisamment intelligente aide. Avis aux amateurs. C'est très important, ça. C'est très important de comprendre ça. Il faut de temps en temps, la philosophie, ça doit nous servir, hein, soubassement. Soubassement, et les soubassements dans la vie commune, c'est très important. Hein. La cuisine, c'est très important. Alors, les soubassements, c'est très, très important. Alors, il faut comprendre les soubassements de la communauté religieuse. Il y a une communauté humaine. Et une communauté humaine demande d'être intelligente. Alors, voyons maintenant, si vous voulez, quels sont les grands obstacles qui empêchent l'amour d'amitié d'aller jusqu'au bout. Parallèlement, on pourrait dire quels sont les grands obstacles qui conduisent au divorce. C'est parallèle. Alors là, c'est très éclairant, ça. Combien d'amour d'amitié échoue aujourd'hui? C'est invraisemblable. Quand on fait un sermon de mariage, n'est-ce pas? On dit pourvu que ça dure. Hein? C'est merveilleux. Et quand on fait une prise d'habit, hein, on dit la même chose. C'est merveilleux. Il ne faut pas éteindre le feu, mais il faut quand même l'attiser et lui permettre d'aller jusqu'au bout. Alors c'est intéressant de voir quels sont les grands obstacles qui arrêtent. Premier grand obstacle, l'imaginaire. Croyez bien que je n'ai rien contre l'imaginaire, je l'aime beaucoup. Mais l'imaginaire peut être une chose merveilleuse et une chose terrible. Ça, il faut le comprendre. Alors, quand je vais parler ici de l'imaginaire constamment, c'est un type d'imaginaire, c'est pas l'imagination. Je vous ai dit, cet examen philosophique d'Olivier, disons, il m'a posé la colle. Quelle distinction faites-vous, mon père, entre la fantaisie et l'imagination? Il doit bien y avoir, je dis en chinois, il y a une distinction. Je ne sais pas, le chinois est assez grossier au point de vue philosophique. Il y a des tas de distinctions qui n'existent plus beaucoup quand on regarde au point de vue philosophique. C'est avant tout une éthique familiale. Quelle distinction faites-vous entre l'imagination et la fantaisie? Alors, je dis, je reviens au mot fantasia, je reviens aux deux. Je dis, oui, je vois très bien la fantaisie, hein. La fantaisie, je dis, poétique. Oui, c'est ça que je veux dire, la fantaisie poétique. Alors, la fantaisie poétique, donc l'inspiration. Oui, l'inspiration, on va dire, bon, c'est un type d'imagination. Donc, il y a l'imagination mathématique. C'est merveilleux, un grand matheux. Quand on vit avec de grands matheux, on voit ce que c'est que la mathématique. C'est quand même très beau, c'est l'imagination éclairée par l'intelligence. C'est très beau de voir l'imaginaire dans le point de vue de l'inspiration. Nous l'avons vu. Et maintenant, nous voyons l'imaginaire dans ses excroissances. Les excroissances de l'imaginaire, c'est encore l'imaginaire. Parce que l'imaginaire n'a pas en lui-même la capacité de se tailler. C'est pour ça que les excroissances, c'est encore l'imaginaire. C'est extraordinaire. C'est le même mot pour l'imaginaire. Alors il faut penser à ces excroissances de la charité, de l'imaginaire, il faut penser à ces excroissances qu'on voit dans une serre chaude. Vous savez, ces plantes extraordinaires dans des chairs chaudes, des plantes qui poussent, ça pousse d'une façon étonnante, mais ça n'a pas de force. L'imaginaire, ça va dans tous les sens, sans aucune force. Ça n'a aucune structure. L'imaginaire, par définition, n'a pas de structure. C'est quelque chose de très très curieux. Et c'est ce qui fait le caractère tout à fait particulier de l'imaginaire. La connaissance des rêves. Vous voyez la structure du rêve. Ce sont des bulles de savon. C'est merveilleux, c'est beau. Ça a toutes les couleurs quand il y a du soleil. Ça vole, tout d'un coup, ça éclate. Ça n'avertit pas. C'est extraordinaire. C'est l'imaginaire. L'imaginaire, c'est quelque chose qui est comme cela. Alors quand c'est des belles bulles de savon, c'est très bien. Alors on croit que c'est vrai. Non. C'est un être purement intentionnel. Alors il est réel, mais purement intentionnel. Et il n'a plus d'appui sur la terre. C'est pour ça que ça éclate, comme la bulle de savon. Vous voyez ? Tant qu'on a un point d'appui sur le roc, on n'éclate pas. Un concept n'éclate jamais. Dit que l'imaginaire s'éclate. Un beau jour, oui, au milieu d'un rêve. Un rêve se transforme en cauchemar. Alors, l'imaginaire, obstacle pour empêcher le premier amour, spirituel, de se transformer en intention. Je crois que c'est le premier obstacle, un obstacle très très profond, qui transforme le premier amour spirituel en velléité. Nous avons des velléités dans notre vie. Velléités. Vous savez, quand on dit que l'enfer est pavé de bonnes intentions, on devrait dire l'enfer est pavé de velléités. Et la velléité, c'est quoi? C'est le premier amour spirituel qui se laisse contaminer par l'imaginaire. Alors, c'est d'abord un idéal. Et petit à petit, l'idéal, c'est très bien. Moi, j'ai un idéal merveilleux. C'est pour ça que je ne m'engage jamais. Vous voyez, c'est extraordinaire de dire ça. J'ai un idéal merveilleux, parce que l'idéal que j'ai ne correspond jamais à la réalité. Alors je ne rencontre jamais quelqu'un avec qui je peux faire chemin faisant, vous savez. Alors on critique tout au nom de cet idéal. On reste dans l'imaginaire. L'idéal, c'est l'imaginaire. Pas l'oublier. Et alors petit à petit, un idéal se transforme en velléité. Là, il y a un passage qui est très intéressant, qui serait très intéressant à voir. Vous voyez, l'imaginaire plus l'amour spirituel peut très bien être un merveilleux idéal. C'est même pas mauvais que dans l'amour, il y ait une phase d'idéal. C'est pas mauvais, ça. Ce qui est mauvais, c'est quand cet idéal se transforme en vérité. Et quelquefois, ça se fait très vite. Cet idéal se transforme en velléité. Alors, c'est la bulle de savon qui a éclaté. Il n'y a plus rien. Même le premier amour ne s'y retrouve pas. Et évidemment, l'imaginaire continue. Alors, la velléité, ça en appelle un autre amour, et ainsi de suite. C'est dans ce sens-là qu'il n'y a plus d'amour. Le premier amour qui pouvait être très vrai, c'est laissé contaminer par l'imaginaire. Pourquoi ? Parce que la présence de l'intelligence n'a pas été assez forte. Pour passer du premier amour spirituel à l'intention divine, il faut que l'intelligence soit présente. Parce qu'une intention, ça implique un certain ordre. L'imagination est anarchique. Elle brouille toutes les cartes. Tout le temps. C'est le propre de l'imagination. C'est brouiller les cartes. Alors, vous comprenez, quand l'imaginaire se fait complice, ou quand l'imaginaire veut séduire ce premier amour en le transformant en un idéal de vie, cet idéal de vie n'ayant plus de réalisme suffisant, cet idéal de vie se transforme en velléité. Et ça peut arriver. Ça arrive dans le mariage, ça arrive dans la vie religieuse. Parce que c'est le même obstacle. L'intelligence n'a pas été assez présente. Mais c'est là où on voit comment, je n'ai rien contre les dévotions, vous comprenez. Mais je vois bien comment, quand de fait, on reste uniquement au niveau dévotion, on risque de faire que ce premier amour ne se transforme jamais en intention de vie. Parce que les dévotions ont toute une part d'imagination et de sensibilité et de passion. L'imaginaire et la passion, c'est très très lié, c'est tout ce qu'on appelle le psychisme. Notre psychisme de dévot, le psychisme d'un dévot, c'est extraordinaire. Les grenouilles de bénitier, on les connaît. Alors, les grenouilles de bénitier, il n'y en a pas ici dont je vous parlais. Les grenouilles de bénitier, c'est quelque chose d'assez particulier. Ce sont des très braves gens, mais ils sont assommants. Pourquoi ? Ça manque d'intelligence. Alors, toute la dévotion est dans les petits cierges. C'est très bien, je crois que ça touche beaucoup la Sainte Vierge. C'est dans les petits cierges, il faut tout le temps que ça brûle. N'est-ce pas ? Alors, très bien, ça fait marcher le commerce. Mais c'est quand même pas ça. Hein. C'est quand même pas ça. On doit passer une intention de vie qui implique un ordre. Alors, il faut bien comprendre comment l'imaginaire lié à l'affectivité passionnelle peut très bien transformer ce premier amour en un idéal. Il y a toujours un certain halo d'idéal. Il faut toujours en garder, mais il faut faire attention. L'idéal doit se concrétiser. Et c'est beaucoup moins drôle. Parce que l'idéal, vous ne le rencontrez jamais. Vous ne rencontrez jamais. L'idéal, vous portez en vous. On a un idéal de vie religieuse. Aucun couvent n'existe comme je porte en moi. Vous voyez, comme disait une fois une abbesse, vous voyez quelqu'un d'entrée, ben oui, elle est née pour la crosse. C'est-à-dire que cette postulante, elle va être telle postulante, elle est née pour la crosse. C'est-à-dire qu'elle voudrait tout de suite être abbesse. Alors là, j'ai la vocation. Et ça, c'est l'idéal. Il faut faire grande attention. L'idéal n'est pas la vie, c'est l'intention de vie. L'intention de vie porte sur une fin qui existe. Puisque ce premier amour regarde un bien qui existe. Et cette fin existe. Et c'est ça que je recherche. C'est quelque chose qui existe que je recherche. Et quelque chose qui existe ne correspondra jamais à l'idéal que je porte. Nous avons tous, hein, chacun d'entre nous, il ne faut pas dire, ah non, c'est pour le voisin, ça. Non, moi, je n'ai pas dit, je suis beaucoup trop positif. Non, tous. Nous avons tous un certain idéal, plus ou moins développé, hein, plus ou moins développé. Nous avons tous un certain idéal que nous portons en nous. C'est pas mauvais d'en avoir un, du reste. Parce que quelquefois, ça peut être le tremplin entre les deux. Ça peut être un tremplin. Mais il y a un danger, il y a toujours que l'idéal devienne rival de l'amour. Alors c'est l'imaginaire qui est dans l'idéal qui devient rival du réalisme de l'amour. Vous voyez, quand un amour n'est plus assez porté sur la réalité même, l'amour de quelqu'un, qu'est-ce qu'il y a? Il y a un repliement. L'amour se replie sur lui-même. Et dès que l'amour se replie, l'imaginaire peut pénétrer dedans. Tout de suite. L'amour demande de provenir d'une source. On aime une personne. On aime plusieurs personnes. Oui. Et donc à ce moment-là, l'amour garde son réalisme. Et son réalisme fait que je désire mieux connaître ce bien. L'intelligence porte sur le bien que je veux mieux connaître. Ce n'est pas l'amour que je veux connaître, c'est l'intelligence. Tandis que dans un idéal, je me replie sur moi-même. Et je ne regarde plus justement l'amour de quelqu'un, et je me regarde aimer. Oui, exactement comme le cogito de Descartes. Je cogite. Oui, mais vous cogitez à quoi? J'aime. Mais vous aimez qui? En réalité, quand vous dites j'aime, c'est-à-dire j'aime me regarder aimant. Alors j'aime. Et alors cet amour, il se repliement sur soi, il se repliement sur soi, fait qu'immédiatement l'imagination le prend, et alors je deviens idéal. Regardez-moi, personne n'a aimé comme moi. Alors on devient son propre idéal, et on devient sa propre mesure à l'égard de tous les autres. Et alors, il n'y a plus d'intention de vie. Dans l'intention de vie, il y a ce réalisme du bien qui, grâce à l'intervention de l'intelligence, devient ma fin. Et c'est l'intelligence qui regarde davantage le bien existant pour faire qu'il devienne ma fin. Alors à ce moment-là, je passe l'intention de vie. Donc là, il y a un premier obstacle qui est très important, qui est très subtil, parce qu'il est très profond. Alors, c'est l'imaginaire au psychisme, c'est bien évident, c'est l'imaginaire qui vient briser l'élan profond de notre cœur dans un premier amour. C'est d'autant plus difficile, vous voyez, que c'est plus profond. Ce premier amour est très profond, j'en ai pas conscience. Tandis que j'ai conscience d'un idéal. J'ai conscience d'un idéal. J'ai conscience... Je critique au nom de quoi? Au nom d'un idéal. Nous n'avons pas le droit de critiquer au nom d'un idéal. C'est vrai, on n'a pas le droit de critiquer au nom d'un idéal. On doit aimer. Et au nom de cet amour et de ce bien que j'aime, je vais aller plus loin et ce bien deviendra ma fin. Second moment, plus facile à détecter. J'aurais dû peut-être commencer par là, mais plus facile à détecter, c'est encore l'imaginaire lié à la passion. Et j'allais dire ici, la passion passe devant l'imaginaire, tandis que là, l'imaginaire passe devant la passion. La passion est comme, j'allais dire, un fond, c'est l'imaginaire qui domine, tandis qu'ici, c'est la passion qui domine, c'est le passage de l'intention au choix de vie, au choix de la vie, au choix des moyens. Nous avons dit que ce choix présupposait le conseil, présupposait l'information. Alors, je comprends très bien. Comment l'imagination peut, poussée par la passion, intervenir pour mal choisir. C'est la corruption du choix. Il y a d'abord la corruption de l'intention, Et il y a une corruption du choix. On a choisi à un moment donné. On a fait ce choix absolument libre. J'étais absolument libre. D'une liberté totale, je sais bien. J'ai fait cet acte. On demande ça aux gens qui se marient. Êtes-vous libre? Ils disent oui. J'ai encore jamais rencontré quelqu'un qui me disait non. Mais ça aurait été évidemment un peu tardin. On ne saurait pas trop quoi faire. Quelqu'un qui dit non. Ils disent oui. Ils y ont réfléchi beaucoup. Puis vous les retrouvez 2 ans après. Non. Le choix s'est changé. Corruption du choix. Pas seulement pour le mariage, mais pour beaucoup d'autres choses. Il peut y avoir une corruption du choix. Comment ça s'est fait? Ça ne s'est pas fait tout seul. Ça ne s'est pas fait d'une seule façon. Quand on choisit, surtout quand on choisit un ami, quand on choisit, le choix qu'on a, qui est un choix d'amour, a quelque chose d'absolu. Je choisis de prendre l'habit. C'est un choix. Ça porte sur un moyen. Je choisis. Je demande de prendre l'habit. Je demande d'entrer dans la communauté. C'est un choix. Libre, absolument libre. Comment se fait-il qu'au bout de 1 an, 2 ans, quelquefois, le choix n'est plus en acte. Alors que ce choix devrait être en acte tous les jours. Et à chaque instant, il n'est plus en acte. Comment ça se fait? On constate. Comment se fait-il? Vous avez dit oui il y a 1 an, et maintenant vous dites c'est impossible. C'est impossible, la vie vous menait beaucoup trop dure, beaucoup trop dure. Je ne croyais pas que c'était ça, vous voyez. C'est ce qui est difficile, c'est de continuer. C'est ça, je veux dire. Vivre 8 jours dans un couvent, ça va, mais toute sa vie, c'est effrayant. Effrayant. Qu'est-ce que je ferais là-dedans? C'est comme ceux qui pensent à l'éternité. Toute l'éternité. C'était quand même effrayant. C'est être fixé pour toute l'éternité. Alors le choix, on l'a choisi, pourtant on a choisi l'éternité. On a choisi la vision béatifique en prenant l'habit. On a choisi la vision béatifique en se disant que l'habit était le meilleur des tremplins. Grâce au scapulaire, ça fait passer. on peut comme ça choisir et aller plus vite. Alors ça, le choix. Bon, on a choisi librement. Le choix est absolument libre. On a demandé conseil, on a fait l'information. Le choix libre. Comment se fait-il qu'il y a corruption du choix? Que le choix qui demanderait de durer. Ah, c'est la durée ici. Là, il y a presque dire, c'est plus ce passage, cette décision à l'intention. Ici, c'est la durée. C'est la durée d'un choix. Un choix qui compte. Mais les petits choix que l'on peut changer, parce que le lundi, on prend les petits gâteaux de telle manière, le mardi, de telle autre manière, et on varie exprès, n'est-ce pas ? La soupe de tous les jours, pour qu'on choisisse différemment, n'est-ce pas ? Mais quand c'est toujours la même chose, toujours la durée dure à porter, comment se fait-il ? Eh bien, je crois. Mais la corruption vient de la passion. C'est corrosif, les passions. Ça peut être corrosif. Les passions liées à l'imaginaire. L'imaginaire lié à la passion peut donner peur. Des peurs. Quand on aime, on n'a plus de peur. On n'a plus de crainte. Alors, on est devant un abîme qui s'ouvre. Je n'avais pas vu ça. Alors, on tombe dans l'angoisse. Alors qu'on avait choisi 3 jours avant, qu'est-ce qu'il y a eu? Ça vous est tombé dessus, ça. La passion, l'imaginaire. Je crois que c'est vraiment la passion et l'imaginaire qui vont venir agir sur le conseil, sur l'information.
Ah, j'étais mal informé. On dira ça tout de suite. J'avais pas découvert dans celui ou celle que j'avais choisi comme ami tel défaut effrayant qui se découvre tout d'un coup.
Ça peut se faire, ça.
Au printemps, certaines choses se dévoilent. À l'automne, d'autres choses se dévoilent. Il y a la tombée des cheveux, ça fait quand même quelque chose. Hein. J'avais pas prévu ça. J'avais pas prévu qu'il y avait ça derrière. J'avais vu que les qualités, je rencontre quelqu'un, toujours au bon moment, les amis de Job. Je rencontre quelqu'un, au moment où j'étais un peu troublé, un peu agité. Je rencontre quelqu'un qui, juste là, me dit la parole qu'il ne fallait pas dire. Tu vois bien, je te l'avais dit. Il fallait faire attention. Juste au bon moment. Tu vois pas les limites, tu vois pas que c'est impossible. C'est tout le temps comme ça. La tentation. On dit ça tentation. Mais c'est une tentation quand vous la rejetez. Et quand c'est un conseil, c'est pas une tentation. C'est un frère que j'aime beaucoup, très capable, merveilleux. On peut dire que la vérité, ça me tente. Ça remet tout en cause. Alors que j'avais pris mon choix. Ça remet tout en cause. Tant qu'on vit sur la terre, aucun choix n'est absolu. Tout le temps est remis. Tout le temps, il y a toujours le possible vers le non-essai. Toujours le possible vers le non-essai. Votre volonté n'est jamais totalement captée par un choix. Elle n'est jamais totalement déterminée par un choix. Et donc votre volonté demeure avec une possibilité de rejeter le meilleur des choix que vous avez faits, la meilleure des décisions que vous aviez faites. Il y a toujours possibilité de revenir. Et souvent, on revient plus vite dessus que le temps qu'on a mis pour choisir. C'est une rapidité extraordinaire. Vous voyez, la peur est mauvaise conseillère, hein? Alors, on voit très bien le conseil, l'information. J'ai appris des choses nouvelles, des choses extraordinaires. Or, le choix porte sur la personne. Quand on aime une personne, ça porte sur la vie. Or, le choix porte sur les moyens que j'ai choisis en vue de la fin. Or, les conseils qui me sont donnés, ces informations nouvelles, séparent l'homme de l'ami, séparent ce moyen de son ordre vers la fin, et me fait miroiter le moyen de multiples manières. Ça met une coupure vis-à-vis du choix qui était lié au premier amour, lié à la première intention. Ça me fait une coupure. Là encore, vous voyez, c'est la même chose. Hein? Toujours ce repliement. Il y a un premier repliement par rapport à l'objet. Il y a un second repliement ici, par rapport à l'ordre vis-à-vis de la fin. Ici, la dernière objectif, c'est l'ordre vis-à-vis de la fin. Puisque le choix n'existe que dans la mesure où j'ordonne tout à la fin. C'est comme ça qu'un moyen devient bon, dans la mesure où il est ordonné à la fin. Alors, si j'ordonne tout vis-à-vis de la fin, ce moyen m'apparaît excellent, me paraît bon. Si je le coupe de la fin, et que je ne regarde que ce moyen pour lui-même, à ce moment-là, ce moyen peut être contaminé par l'imaginaire, par de nouvelles informations, et à l'infini, ça. À l'infini. Tandis que l'ordre du moyen vis-à-vis de la fin, c'est moi-même qui l'ai fait, ça. Quand j'ai choisi ce moyen, il a été rattaché à ma fin. Et je l'ai aimé parce qu'il reflétait tout l'amour de ma fin, tout l'amour du bien que j'aimais. Et ça, c'était au-dedans de moi-même. Je découvrais cet ordre. Mais la tentation, je dis bien la tentation ici, la tentation consiste à me mettre en dehors de cet ordre vis-à-vis de la fin, à me couper de cet ordre. Et alors, à regarder le moyen pour lui-même. Voilà le nouveau conseil, la nouvelle information. voyez, quelle est la mesure du conseil? Quelle est la mesure de l'information? C'est le choix. Quand j'ai choisi, je ne dois pas revenir dessus. Avis aux scrupuleux. C'est une maladie, le scrupule, vous savez bien. Alors on vient sur quelque chose qu'on ne doit pas revenir. Et on vient sur quelque chose parce que justement son choix n'est plus ordonné vers sa fin. Donc il perd toute valeur profonde, toute valeur éthique. Et je ne regarde plus que ce moyen en lui-même, d'une manière non éthique. Et le regardant en lui-même d'une manière non éthique, alors à ce moment-là, je l'ai relativisé. Et je vois très bien qu'il n'a plus d'absolu. Il ne peut plus être pour moi une force de conquête. Il devient au contraire pour moi un obstacle pour avancer. Alors je le rejette. Je me dis, je me suis trompé. Quand on le dit encore, ou bien j'ai changé, c'est plus ça. On voit très bien, c'est très intéressant de saisir ça, le point de vue de l'imaginaire et de la passion. Parce qu'à ce moment-là, vous voyez, je prétends que je peux toujours tout remettre en cause. Et l'amour libre, l'amour de situation, c'est ça, à la manière de Sartre. Je remets toujours tout. Alors que si j'ai compris que le choix était lié à la fin, il y a des choses que je ne remets pas en doute. Et je rejette les conseils de l'information pour les choses. J'ai choisi, ne t'en inquiète plus maintenant, c'est fini. On verra pour la fois prochaine, très bien. Mais cette fois-ci, c'est fait. Parce que la mesure du choix n'est pas le conseil et l'information. La mesure du choix, c'est l'ordre vers la fin. Alors si, à ce moment-là, je me détourne de ce que représente vraiment le choix, eh bien je suis sûr d'avance d'être perdu. Et je m'enlise. Et on s'enlise dans l'imaginaire et la passion. Et alors on n'arrive plus. On ne choisit plus que ce qui est en comme naturalité avec nous. Voilà ce que plaide la passion et l'imaginaire. Ce qui est en comme naturalité avec nous. Là, la passion plaide l'idéal. Ici, elle plaide au contraire juste l'inverse. C'est très curieux. Hein. Vous savez, la passion, c'est comme ça. Il n'y a pas de contradiction dans les passions. Alors la contradiction peut d'un côté idéaliser et de l'autre côté ramener à la connaturalité. Alors je ramène tout à la connaturalité et je dis non, c'est impossible. Je suis trop fatigué, c'est pas pour moi, vous voyez ça. Cette parole est trop dure. C'est impossible, c'est impossible. Cette vie est impossible, c'est impossible. J'avais cru. Mais bon, c'est impossible. C'est bon pour des bonnes. Des mots de l'amour, hein. C'est bon pour ça. C'est impossible, c'est archaïque, c'est du Moyen-Âge. C'est impossible, nous ne sommes pas habitués à ça. On est des bêtes de luxe. Alors évidemment, comme naturalité n'existe plus beaucoup dans les moyens qu'on a choisis. Et alors on regarde le sujet. Faites l'analyse d'une petite tentation. Vous verrez toujours que c'est l'imaginaire et la passion. Qui veut ramener le choix du moyen qui a été fait vers quelque chose qui vous est plus comme naturel. La troisième tentation, je m'arrête, la troisième tentation, c'est encore l'imaginaire qui empêche de passer à l'idéalisme. Il y a bien les trois. C'est très intéressant. Alors, vous verrez s'il y en a d'autres. Hein. Pour moi, il y en a trois. Alors, il faudra regarder la différence ici de cet hyperisme. Très curieux. Parce que ça, les intellectuels comprennent très bien ça. On a une peine énorme de passer à l'ultime décision. Pas parce qu'on a oublié, non. C'est autre chose. On peut oublier, ça serait très différent. On a une peine énorme de passer à l'ultime décision, l'exécution. Parce qu'il faut se jeter à l'eau. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen.